La rubrique des petits conseils d'auto-soins numériques des Tati Geeks.
Reportage en immersion à la première rencontre du réseau Big Data, réseau des bibliothèques et centres d'archives LGBTQIA+ et féministes. C'était le week-end du 3 et 4 juin 2023 à Grande Zéro, Vaux-en-Velin. Bienvenue dans la matrice queer.
Big Data, c'est un réseau d'organisations queer, LGBTQI, TPG, féministes, qui se mettent ensemble et qui travaillent sur une plateforme numérique commune avec des outils pour valoriser leur collection d'archives et de bibliothèques. Voilà à peu près ce qu'est Big Data.
Sur Internet, si on cherche Big Data, qu'est-ce qu'on trouve ?
On va trouver un site web avec un graphisme un peu tout pété parce que je suis pas graphiste en fait, et que j'ai trouvé un gif qui représente un peu la matrice mais rose, voilà, parce que c'est un peu l'idée de rentrer dans les données et les matrices queer. On a un catalogue de bibliothèques où on peut notamment savoir où est quelle ressource, donc où est quel document. Donc par exemple, un livre, s'il est présent à Marseille, à Paris, à Toulouse, maintenant à Bordeaux, à Lyon, on peut savoir qui a quoi, où est quoi, et chaque collectif et organisation reste indépendant et travaille ses propres stratégies et politiques mémorielles. Et ça, c'est ça qui est important, en fait, de faire vivre tout ça. Ça fait 6 ans qu'on se rencontre, qu'on se voit. Il y a des liens qui se sont créés depuis février 2017. C'est le moment où on s'est un peu rencontrés, où c'était les premières rencontres TPG autour des archives qu'avaient organisé Mathias et Clem et des militants de Toulouse. Où après, il y a eu une floraison de collectifs et d'envie. Et maintenant, on travaille ensemble autour d'outils communs et c'est super chouette. Souken, c'est les premières rencontres Big Data. La plateforme numérique, elle existe depuis un peu plus de 2 ans. C'est la première fois que toutes les orgas se rencontrent. Maintenant, on est plus de 15. On est en contact avec plus de 30 orgas francophones, c'est-à-dire aussi au Canada et en Suisse. En moins de 6 mois, ça a été un peu aussi exponentiel, par le bouche à oreille. J'ai l'impression qu'on a un peu ouvert les possibles, qu'enfin on se sente légitime et qu'on ait envie de prendre soin des mémoires et de nos archives et de nos histoires et que c'est pas aux autres de le faire à notre place, quoi. Il y a énormément aussi de frustration et de colère face à toutes les violences, notamment les violences mémorielles qu'on se prend dans la gueule en fait. Les processus d'effacement, les processus de censure, les processus de réécriture de nos histoires, de dépossession aussi de nos histoires, de dire qu'on n'est pas légitime en fait pour les écrire, alors qu'il n'y a personne d'autre qui doit s'arroger ce droit en fait. Et l'idée c'est que oui, on n'est pas scientifique et c'est pas grave, en fait on n'est pas là pour faire de la science, on est là pour parler, pour s'exprimer et pour avoir le contrôle en fait sur nos politiques et nos manières d'agir. Le but au moins c'est qu'on se soit réunis tous ensemble aujourd'hui et que y a des envies. Enfin, c'est trop chouette qu'il y ait un groupe turbo trans qui se soit réuni aujourd'hui et peut-être qui va créer des choses. Un groupe aussi autonome archigouine. Enfin, il y a vraiment des envies qui commencent à émerger de partout et c'est ça qui est dingue, quoi. J'ai un peu évité de chialer tout le week-end, mais en fait, il y a énormément d'émotions et c'est trop chouette.
On fait un atelier zine des plages. Du coup, là, on est en train de créer des mots croisés hyper auto-référencés sur ce week-end avec que des blagues pour les initiés, c'est-à-dire pour les personnes qui étaient là ce week-end.
On est en gueule de bois, en somme, quoi.
Voilà. Enfin, pas moi, mais il y en a qui. Et voilà, et c'est super.
Et ça va faire un petit journal, c'est ça ?
Voilà, on va faire un fanzine. Là, on a déjà un quiz des rencontres. Donc, par exemple, on peut donner la première question. La première question, c'est quelle est la réelle signification de Big Data ? Donc là, il y a écrit « grand-tante », entre parenthèses, « la sœur de mamie », « un très gros taz », « big tourisme acabien à tendance apocalyptique » ou « un réseau d'archives communautaires très swag ». Voilà, c'est pour donner un peu une idée de...
De la teneur de ce quiz.
Voilà, tout à fait.
Quel tag peut-on lire dans les choses de GZ?
Voilà, quel tag...
J'ai pété sur un keuf. Plus de riches à la cantine, hétéro déconstruit, ou plus de PD, moins de LBD?
Voilà.
Voilà. C'est voilà. Ça vole très haut. On est super
bien.
On s'amuse bien.
Voilà.
Des bêtises.
Alors, on est dimanche matin à Grande Zéro à la rencontre Big Tata et je viens de trouver quelqu'un qui a participé à l'organisation.
Bonjour, bonjour. Alors, moi c'est Arlo, je fais partie du collectif de Derrière les Fagottes, collectif d'archives de Toulouse, TPGI. Dans le cadre de mes études, j'avais besoin d'un stage, je suis venue chez Mémoire de Minoritaire pour faire mon stage. Ça tombait bien puisqu'il y avait les journées Big Tata organisées et du coup, j'ai fait ça pendant un mois et demi. L'enjeu, c'était rassembler le plus de collectifs de centres d'archives et de bibliothèques LGBT francophones possibles. Ce qu'on a fait puisqu'on est arrivé à 16 ou 17 collectifs, un truc comme ça. Et l'autre enjeu, c'était loger tout le monde, bien sûr, et assurer toute la logistique et la programmation du week-end. Avec, du coup, c'était une programmation participative, donc collective. Tout le monde a proposé des trucs, comme un atelier éditathon, un atelier choral, des discussions autour de archives et luttes, archives et vie. En fait, ça intéresse les gens, ce qu'on est en train de faire. Pas que nous, dans notre délire de geek de l'archive, les gens sont contents de venir à un week-end de juin à des rencontres d'archives et de faire des petits ateliers ludiques, quoi. Donc ça fait plaisir. Et puis on s'est tous rencontrés. Et c'est vraiment des personnes trop super, de tout partout. Mémoire des sexualités de Marseille, les héroïnes de Marseille, Mémoire minoritaire Lyon, qui a donc hébergé l'événement. Archives LGBTQI de Paris, les archives de Derrière les Fagottes de Toulouse, Espace QG Bordeaux, la boîte sous le lit du centre LGBT de Bordeaux, la bibliothèque du centre LGBT de Grenoble, Genre de lutte de Marseille, Queer Pazé de Suisse, du coup en Velay, les ARCL, Archives, Recherche et Culture Lesbienne de Paris, ouais. C'est le plus vieux centre d'archives. Et j'en oublie certainement. Queer Code, tout à fait. Isabelle, Queer Code.
Tu peux te présenter puis me raconter où on est, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, bonjour Isabelle de QR Code. On est aux rencontres Big Data et là on est au niveau du bras zéro et on est en train de dans l'espace où il y a plein de choses qui se passent. Notamment, on peut jouer à notre jeu vidéo Trace. Et là, il y a une personne mais qui est en train de tester l'épisode 2 et qui commence en fait dans un appartement. Et en fait, on reçoit un appel qui nous dit « Ben oui, il faut se préparer pour la journée mondiale de lutte contre le sida ».
Alors, tu peux décrire un peu à quoi ça ressemble c'est un peu old school, non ?
Ben oui, complètement. Donc, en fait, c'est du matériel de récupération informatique. Donc, on a fait une borne. En fait, on a récupéré un écran d'un ordinateur, un vieil ordinateur. Et puis, on a fait en bois, on a fait une vieille borne, voilà. Et l'idée, c'est que, ben, en fait, en pixel, on utilise le logiciel libre dont Bitsy, qui est en fait un logiciel qui est utilisé par la communauté du libre et notamment des personnes LGBTQIA+. Et on a fait ce jeu, on en a fait trois, pour partager l'histoire de lutte contre le sida. Voilà.
Trop bien. Et tu fais ça tout le temps ?
Alors, pas du tout. Alors, moi, je ne suis pas du tout une gameuse, mais je suis une activiste de lutte contre le sida et j'ai la chance de militer avec plein de personnes très différentes, dont des gameuses et des gamers, et dont des personnes qui créent des jeux vidéo. Et ben là, on s'est dit, pourquoi pas, justement, ben, apprendre ensemble, jouer, et puis chercher des supports. Donc là, ben, la personne est en train de se galérer, il veut sortir de l'appartement, n'y arrive pas. Alors en fait, on est très riche dans cet appartement, on a en fait une chambre. On a une chambre, je vais donner un titre, parce que vraiment, c'est une galère infernale. Donc dans cette chambre, en fait, ben là, on va pouvoir aller dans une armoire. Et dans l'armoire, en fait, on va choisir notre t-shirt. Et là, l'idée, ben, c'est de tu vas pouvoir choisir ton t-shirt. On te raconte un peu l'histoire.
Choisis quoi ? J'espère quoi, parce qu'il y a beaucoup de messages. Voilà, ouais. Il y a beaucoup d'infos en même temps. Donc, je sais pas, je passe direct sur l'esthétique. On réalisait en 1997 comme à Montpellier. Elles ont permis de diffuser des messages de prévention, de récolter des millions de francs à l'époque. Enfiler le t-shirt. Oui ou non? Ah zut, je dois recommencer? Non.
Alors, tu en as plusieurs. Donc là, l'idée, c'est de raconter notre histoire de lutte avec des t-shirts qu'on a réalisés. Là, moi, aujourd'hui, j'en ai un d'Act Up Paris, qui a été fait il y a 2-3 ans pour collecter des fonds. Et là, je te présente des t-shirts qui sont les miens, puisque j'ai eu la chance de faire cette marche. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vite quand on l'a fait une première fois. Bravo, ta patience. Oui, il faut un certain doigté avec le joystick. Oui, voilà. Donc là, tu peux choisir. Si tu le veux, oui. Et sinon, tu découvres un autre t-shirt.
D'accord.
Que moi, j'ai porté à l'existence. En fait, l'idée du jeu, c'est de pouvoir présenter les différentes communautés qui sont mobilisées. Donc là, tout à l'heure, on était avec Ed, et là, maintenant, tu es avec un autre groupe d'activistes. Et tout à l'heure, on va te proposer un t-shirt que moi, j'ai porté en tant que Gwyn d'Act Up. Tu vois, donc en fait, tu choisis ton t-shirt, et puis après, tu vas suivre les aventures. Et, je te laisse continuer de découvrir.
Et, voilà. Et vous faites quoi d'autre à Queer Code? Un lien avec le code.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le code, c'est parce qu'en fait, pour connaître l'histoire des personnes LGBTQI, en fait, il faut connaître les codes de ces différentes générations de personnes. Parce que, en fait, comme toute personne minorisée, minoritaire, on crée, en fait, une histoire, parfois qui est considérée comme une subculture, alors que c'est notre culture. Mais effectivement, il faut avoir des codes pour la comprendre. Et donc, c'est un jeu de mots entre les codes aussi organisés par les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque nous, on est assez axés sur cette histoire-là, et aussi les codes, bien sûr, qui ont été craqués, hein, puisqu'Alan Turing, l'un des fondateurs de ce qu'on peut appeler l'informatique d'aujourd'hui, mais avec d'autres personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, ont craqué des codes pour comprendre et déjouer les plans des nazis. Donc, en fait, notre nom de collectif fait référence à tous ces codes, et puis, bien sûr, au QR, puisque avant qu'on soit obligé par l'épidémie de la Covid, mais c'était aussi une technologie assez accessible, qu'il est toujours, et donc c'est aussi une façon de pouvoir diffuser de l'information par des technologies et les hacker. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui à la rencontre Big Tata?
Je suis là parce que j'ai intégré le réseau Big Tata à Lyon. En fait, c'est un peu pour moi la première fois que je rencontre un peu tout le monde. Ça fait beaucoup de bien de croiser un peu des gens de plein de villes qui ont les mêmes envies, en fait.
Tu peux expliquer plus précisément qu'est-ce que tu fais, toi, dans Big Tata?
Alors, moi, je m'occupe de la partie informatique, donc de la technique. Big Tata, au-delà du réseau qui a vocation à devenir un truc vraiment étalé, fédération, etc., il y a aussi une logique d'archivage de fonds, etc. Et donc, il y a un site web où les gens peuvent déjà consulter des ressources, des références sur des livres, des machins. Et en fait, pour ça, il faut des outils à la fois en interne pour pouvoir archiver tous ces documents et les cataloguer, et aussi du coup pour les présenter. Donc mon boulot, c'est de m'assurer que ça se casse pas la gueule d'une part, d'une autre part, essayer de lier un peu tous ces outils pour qu'il y ait une recherche qui soit transparente pour tout le monde en un seul bloc, sans avoir à s'embêter avec 10 outils différents. Et enfin, essayer de produire en fait de la documentation pour permettre à d'autres personnes de mettre en place ça sans avoir à passer l'énorme montagne de l'informatique. Voilà.
Tu fais ça seul? T'étais déjà dans les trucs informatiques avant?
Oui, à la base, je viens du milieu informatique. Ouais, j'ai travaillé un peu quelques années dans des grandes boîtes, des trucs comme ça. Ça m'allait pas du tout, du tout. Et j'ai fini dans l'associatif. Et actuellement, je suis plus ou moins seul sur Big Data. Mais justement, un truc qui est de se rendre compte, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir après qu'on ait discuté à l'AG en me disant bah, moi aussi, ça m'intéresse, j'ai envie d'aider, etc. Et on va essayer de monter un groupe qui arrive à produire des trucs.
Peut-être de dire, c'est un logiciel qui s'appelle Koa et qui est libre.
Ouais, alors c'est un des logiciels, ouais, mais effectivement Koa qui permet de faire le catalogage des livres en l'occurrence, comme tous les autres outils qu'on a mis en place, sont libres, donc c'est-à-dire qu'ils sont non seulement gratuits, mais le code source, donc la recette de cuisine du logiciel, est disponible pour tout le monde, et donc ça permet d'avoir des outils qui peuvent être modifiés de manière collaborative. C'est des gens qui sont dans une logique un petit peu comme nous les archives, en fait, de partage de l'information, que tout soit accessible, etc. Donc en fait, ça s'aligne complètement avec la démarche des archives qu'on a ici.
Donc je te présente Karine, qui fait partie des héroïnes et de Mémoire des sexualités à Marseille, et qui enregistre beaucoup de choses. Donc le premier atelier des rencontres, samedi matin, il y a Morgane qui fait partie de Big Tata, qui est archiviste de AIDS à Paris, qui est génial, genre c'est vraiment la resta de l'archive, Morgane. Elle est trop stylée. Donc Morgane proposait un atelier classement d'un fonds, elle l'a appelé comme ça, et c'était du coup basé sur le fonds de Françoise Prouvoyeur. C'est une ancienne militante qui était entre les États-Unis et la France. Donc on lui avait envoyé l'inventaire avant parce qu'elle n'avait pas encore vu le fonds, elle ne le connaissait pas. Et du coup, Françoise était là hier, donc on a étalé son fond sur des tables. On était genre 70, tu sais, bébés archivistes autour, coltinés autour de nos trois tables. Et en gros, Françoise a donné les éléments de contexte du fond et tout ça. Elle pouvait parler de chaque document. Et c'était trop bien. Et du coup, ça a été un peu le premier... je sais même plus pourquoi je te... Ah oui, Libération.
Après la proposition...
Juste par un petit encart
au thème initial. Beaucoup de gens sont allés emprunter un livre à la bibliothèque. Autant sur les archives, on est un peu dans le flou parce qu'on n'a pas, comme tu dis, un schéma comme celui que tu décris pour les zines. Et l'idée, je crois, c'était de se mettre d'accord, alors avec des variations propres à nos collectifs, bien sûr, se mettre d'accord sur un schéma de métadonnées un peu cohérent entre nous, sinon commun.
Bah, il y en a un pour, comment dire, c'est pour les instruments de recherche, il y a... une norme internationale instrument de recherche, c'est-à-dire qu'en gros il y a des champs qui sont
bien sûr, mais ils sont pas forcément pertinents pour,
oui,
pour les archives telles que nous on les partage,
oui.
Là, de dire bah ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça politiquement ça nous fait chier, etc.
Oui, c'est ça. C'est là-dessus qu'il y a, sur cette base-là, je pense.
C'est
que,
ça. Ok. Mais merci d'avoir clarifié parce que moi c'est vrai que la différence entre classer et récoller.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Et je crois que tu as animé l'atelier métadonnées, qui est un atelier qui peut paraître mystérieux à des gens qui ne connaissent pas.
Oui, je crois que c'est mystérieux pour nous aussi. Moi, je m'appelle Yael, je suis aux ARCL à Paris, les Archives Recherche Culture Lesbienne. Et les métadonnées, c'était en gros tout simplement quand on classe des documents, comment on les identifie ? Quelles données on utilise pour savoir de quoi on parle ? Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est un flyer ? Un courrier ? Un pins ? Un t-shirt ? Un guide touristique ? Et si oui, on met quoi pour le reconnaître ? Est-ce qu'on met des dates ? Est-ce qu'on met les noms des personnes, des auteurs, le format, la nature du papier, etc. Et en fait, comme on a des fonds très très variés, c'était intéressant de discuter de ça avec des gens d'un peu partout qui ont des collections qui ne sont pas comme les nôtres forcément ou qui n'ont pas les mêmes besoins. Et donc c'était chouette de pouvoir, à partir d'un truc un peu très concret, tu vois, qui, comme tu dis, est mystérieux, de se mettre en commun un peu les questions qu'on se posait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un peu toutes et tous besoin des mêmes infos. Donc en fait, on va se revoir pour faire des ateliers sur ça régulièrement. Et en fait, on se sent moins seul et moins en retard quand on se rend compte qu'en fait, on est tout en galère un peu de la même manière.
Tu fais partie des Archives lesbiennes de Paris.
C'est pas grave.
Et à cette rencontre Big Tata, tu as été à la rencontre Archigouine, tu peux nous raconter ?
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que ce projet ?
En fait, avec des filles d'autres collectifs mixtes, parce que les ARCL, c'est un peu, enfin, c'est même le seul collectif qui est vraiment strictement lesbien et féministe, qui n'est pas un collectif mixte. Dans les réseaux Big Tata, la majorité des collectifs sont mixtes, avec des gouines, des PD, etc. Et du coup, on se rendait compte, et c'est des problématiques que les copines nous faisaient remonter, qu'en fait, elles avaient beaucoup de mal au sein de collectifs mixtes à valoriser et à rassembler des énergies pour visibiliser les fonds et les archives proprement lesbiennes. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien aux ARCL, parce que si on défend cette non-mixité, c'est aussi parce que ça a un héritage des luttes lesbiennes au sein des mouvements homosexuels, où elles ont un peu eu du mal aussi à se faire une place. Et on est parti de ce constat. Du coup, l'idée, c'est de bosser ensemble entre lesbiennes, que ça soit dans des assos mixtes ou non, à l'échelle de la France hexagonale pour le moment, mais les copines belges ou d'outre-mer ou du Québec peuvent participer aussi. L'idée, c'est de se mettre en réseau entre lesbiennes qui s'intéressent aux archives pour créer en fait des outils et des fonds d'archives lesbiennes pour et par des lesbiennes. Voilà. Et en attendant, on va s'entraider pour conserver et valoriser un peu tout ce qu'on a et puis se faire une petite place pour les rendre visibles, quoi, parce que forcément, elles sont plutôt minoritaires en général dans les fonds, dans les archives, alors qu'en vrai, quand on regarde la composition des collectifs d'archives en France, les lesbiennes, elles sont majoritaires. Et donc, il y a un petit souci, quoi.
Et alors, du coup, cette première rencontre, elle était à la hauteur de tes attentes ?
Franchement, grave, parce que on a un peu rempli nos objectifs. C'était se rencontrer en vrai, parce que le réseau Archigouine, en fait, on s'était vu qu'en visio, et il grossit un petit peu. À chaque fois, on a des collectifs qui viennent, mais là, le fait de se connaître, ça donne des envies beaucoup plus concrètes. Donc ça, c'est objectif rempli. Le fait qu'on puisse échanger sur des questions qu'on se pose avec les perspectives d'avoir des solutions, Et puis ensuite, sentir et prendre la température un peu des lesbiennes au sein du réseau, ça c'était vachement chouette parce qu'on a pu constater, comme je te disais, qu'on était loin d'être minoritaire et une question annexe et qu'on était quand même capable d'être au centre et des projets d'archives et des fonds d'archives. Parce qu'en fait, quand on est la tête dans le guidon dans nos collectifs, notamment à Paris, avec nos problèmes, notre plafond qui tombe, nos étagères à monter, etc., bah, des fois on perd un peu le sens un peu global du truc. Donc c'est chouette aussi de se poser pour prendre un peu de la hauteur et de retrouver aussi le plaisir d'être ensemble, quoi. Un truc comme ça.
Alors là, on est dimanche, il fait très beau, on est sur la terrasse de Grande Zéro. Est-ce que toi, tu peux te présenter puis raconter qu'est-ce que tu as fait pendant cette rencontre ?
Alors moi, je m'appelle Inès, j'ai 26 ans, j'habite Paris et je milite aux ARCL, donc Archives Recherche Culture Lesbienne, qui est une asso d'archivistes Gwyn qui existe depuis les années 80. Donc à ce titre, j'ai été invitée à participer aux rencontres Big Tata. Je suis très contente d'être là, j'ai passé un super week-end. J'ai participé à 2-3 réunions et j'ai surtout eu l'occasion de découvrir un nouveau métier puisque j'ai donné un gros coup de main pour la régie lumière toute la journée d'hier. Voilà, avec News, grosse dédicace. Des bonnes personnes, de l'échange de bonnes pratiques aussi puisqu'on a eu l'occasion de travailler un petit peu avec d'autres camarades des collectifs français. Autour de la structuration du réseau Archigwyn. Et donc voilà, c'était l'occasion de prendre le temps de se rencontrer, de faire connaissance et d'expliquer où chaque collectif en est dans sa collecte, dans ses pratiques. Et puis ce matin, un atelier sur les métadonnées, sous le soleil, l'occasion de papoter un petit peu de nos pratiques, notamment de récollement et de voir où chaque collectif en est. Donc le récollement, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait... une sorte de pré-inventaire, si l'on veut. Souvent, ça prend la forme d'un gros fichier Excel assez moche, mais en fait, c'est très utile puisque ça permet, à la fois à travers un système de classement dans des boîtes, des tablettes, en fait, des étagères ou des armoires, de cartographier dans l'espace où sont rangés les fonds dont on dispose. Et donc, en fait, ça permet de savoir un petit peu s'orienter. Enfin, ça fournit une base pour un inventaire un peu plus poussé. Donc, le récollement, c'est quelque chose de très utile. Nous, aux ARCL, en fait, on a commencé à mettre en place le nôtre il n'y a pas très longtemps, grâce à l'arrivée de Doris, qui est notre archiviste pro, qui nous file des gros coups de main et qui est vraiment grosse dédicace à Doris. Grâce à lui, on a pu un petit peu optimiser nos pratiques, même si depuis des années, quand même, les choses marchaient aussi bien, mais sur un autre mode de fonctionnement. Et donc voilà, on apprend ensemble, on échange un petit peu ce qui fonctionne, nos points de galère. Et puis voilà, c'est surtout l'occasion, je pense, de se retrouver, de parler de choses qui nous intéressent et de voir un petit peu si on peut donner des coups de main dans la perspective aussi de se revoir. Voilà, là, ce qui est sorti de la plupart des échanges, c'est qu'on allait peut-être essayer de faire un petit tour de France, des collectifs sœurs pour pouvoir passer un peu de temps là-bas avec les autres, voir leurs fonds, voir comment ils bossent et puis consolider les rapports, quoi.
Et alors, t'as appris un nouveau métier, la lumière, mais toi, les archives, t'es archiviste ?
Alors absolument pas. Moi, je suis pas archiviste, mais par contre, j'ai toujours été très intéressée par les questions mémorielles. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de rédiger un mémoire sur la patrimonialisation des mémoires, mais immigrées, pas du tout sur le registre LGBT. Ça m'a en fait ouvert un petit peu la voie vers ce monde-là. J'ai eu l'occasion du coup de rencontrer des archivistes, etc. Et j'étais assez intéressée parce que ces personnes faisaient au quotidien. Et puis je trouve que oui, le travail de la transmission de la mémoire et surtout le fait de faire vivre les archives, parce que en fait les archives, si elles sont juste stockées dans un endroit où personne ne les consulte, c'est chouette, mais bon, elles tombent un peu en décrépitude. Et l'idée, c'est de les valoriser, de les faire redécouvrir. Et donc voilà, j'ai intégré les ARCL. Officiellement, je crois, en janvier dernier. Officieusement, mes premières visites, c'était plutôt au courant de l'automne, septembre-octobre, grâce à une amie qui militait là-bas depuis quelques années. Voilà, j'ai été très bien accueillie, très bien prise en charge. Et puis aujourd'hui, à mon tour, j'accueille quand je peux les gens qui viennent. On a beaucoup de visiteuses, en fait, parce qu'on est donc situé dans le sous-sol de la Maison des Femmes de Paris, dans le 12e arrondissement. On accueille des visiteuses, des étudiantes, des chercheuses, des personnes qui ont envie de nous aider. Et puis on expose, on fait des choses, on essaye de tenir un petit peu le collectif envie, mais plus qu'envie, même en expansion, quoi. Et ça marche bien. Voilà.
Ok.
Bah, merci.
Bah, de rien, avec plaisir.
J'espère tu veux rajouter quelque chose ?
Écoute, oui, bah, j'invite les personnes qui peut-être écouteront, entendront ma voix à s'intéresser aux archives, parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire de passé, c'est aussi préparer l'avenir, c'est aussi rencontrer des gens chouettes, se plonger dans des histoires. Enfin, voilà. Moi, j'ai en mémoire une anecdote lors de ma première visite aux ARCL. J'ai découvert des publications lesbiennes des années 20, tu vois, des trucs que j'aurais jamais pensé un jour toucher de mes mains, lire, et en fait tu te connectes à des meufs qui ont existé il y a 100 ans et tu vois qu'elles étaient traversées par les mêmes dramas, les mêmes histoires, les mêmes chamboulements émotionnels, et il y a quelque chose d'éminemment touchant dans ça, quoi. Donc voilà, les archives, c'est pas qu'un truc de rat de bibliothèque où on est dans, tu vois, dans l'obscurité et dans le froid à se faire chier, c'est vraiment quelque chose de vivant et de chouette, quoi. Ça peut être très joyeux.
Alors on va rendre la parole, celle des tatas et des folles. Psycholer, créer, sauver, les mémoires des TPG.
Alors, c'est la fin de l'atelier choral. Restitution.
Bah, en fait, celle des tata et des folles, au début, c'était réunir tata et folle. Du coup, c'est... Voilà.
Il y a eu une scission dans le groupe.
Aïe, aïe, aïe.
Ah,
des problèmes.
Alors, du coup, ce qu'on a écrit, nous, c'est « Quand j'étais sur le bout de la langue, roulons la pelle des souvenirs, pénétrons les trous de mémoire et nos histoires en boomerang. »
Ah ouais, d'accord.
Ah, ça va changer là, ouais.
C'est la mort métaphore filée de cul, quoi, qui fait la
vie. Alors, nous, on a écrit sous la couette la mémoire, sortez les flanelles des placards, les archives des tiroirs, toutes les pédales pour un local, toutes les archipédales pour un local.
Voilà. Et attendez, attendez.
Et on a une petite proposition de potentiel refrain. C'était quoi l'air ? Voilà. Ouais, c'est là et là-bas. Je suis très mauvais sur les airs, donc ça va pas du tout ressembler, mais c'est pas grave. Big Tata, semblant en réseau pour être plus gros contre tous les fâcheux. Voilà, c'est acté du coup, super.
Depuis que je côtoie ma voisine, elle me donne plein de magazines. On mate des photos coquines avec des jolies trombines. On cherche les bonnes adresses pour aller mater des fesses. On lit les petites annonces sans oublier les références. On va rendre la parole, celle des tatas et des folles. Picoler, créer, sauver les mémoires des TPG. Queer, queer, lions-nous, Big Tata, rassemblons-nous. En réseau pour être plus gros contre tous les fachos. Depuis que je vois ma voisine, elle me donne plein de magazines. On m'a des photos coquines avec de jolies trombines. Sous la couette, la mémoire, les flanelles hors des placards, les archives des tiroirs, archipédale pour un local. Quand je l'ai sur le bout de la langue, où la pelle des souvenirs pénètre ces trous de mémoire et nos histoires en boomerang. Queer, queer, soulevons-nous, Big Tata, rassemblons-nous, en réseau pour être plus gros, contre tous les fachos. Queer, queer, souvenons-nous, Big Tata, rassemblons-nous, en réseau pour être plus gros, contre tous les fachos.
Bravo.
Est-ce que tu peux te présenter et raconter l'atelier dont tu sors ?
Moi, je m'appelle Paul, je suis à Mémoire des sexualités à Marseille et j'ai fait l'atelier Archives Trans qui avait lieu cet après-midi, donc qui a réuni un peu, plutôt en mixité choisie, toutes les personnes qui s'intéressaient aux archives trans, qui étaient à leur recherche ou dans leur création. Et c'était assez chouette de pouvoir un peu voir, bah, déjà qu'il y avait beaucoup de structures différentes, et de voir quel était leur rapport aux archives, leur fond s'ils en avaient, et de pouvoir un peu aussi délimiter ce qui existait comme ressources déjà, et comme information sur les différents groupes. Je pense que ça a aussi permis à des personnes de découvrir des structures qui avaient existé. Pour moi, ça m'a donné en tout cas, perso, des envies de créer des moments à Marseille aussi où on puisse, à Mémoire des sexualités, défricher un peu les fonds et retrouver un peu ces petites bribes d'histoire pour les tisser et comprendre aussi c'est quoi les fonds d'archives trans dans l'association à Marseille. Ça m'a aussi donné envie de poursuivre avec un ami un projet de collecte d'histoire orale qu'on a avec les travailleuses de la rue Curiole, donc qui est une des rues de prostitution depuis très longtemps à Marseille, dans lesquelles il y a beaucoup de travailleuses trans, et de continuer à un peu collecter ces récits-là qui font un peu partie de l'histoire locale aussi à Marseille.
Déjà, c'est voir comment il déconstruit l'article. Alors, t'es dessus sur mineur trans. Mineur trans.
Enrichir. Et là, l'idée, c'est de bibliographier, renseigner l'article.
Ouais.
Ok. Et enrichir l'article.
Voilà. Wikipédia, c'est un travail collaboratif. Et a priori, on n'est pas là pour détruire tout le travail qui a déjà été fait. Donc, on va essayer de voir déjà si on peut s'aménager des espaces dans l'article, si les informations qu'on a, elles peuvent rentrer dans certaines sous-sections, et si besoin, on crée la sous-section. Et en fait, si à un moment, la sous-section, elle devient tellement énorme qu'il y a besoin peut-être d'un article à part entière, là, à ce moment-là, on peut peut-être créer un nouvel article. Donc là, par exemple, mineur transgenre, est-ce que sur cette page, il y a une section bibliographie ?
Il y a référence et bibliographie, c'est...
Il y a bibliographie. D'accord, parce qu'en fait, référence, c'est souvent quand on cite quelque chose, alors que bibliographie, c'est pas forcément les ouvrages qu'on aura utilisés, mais c'est sur ce sujet, vous allez trouver tel ou tel ouvrage de machine. Nous, on va plutôt se situer dans bibliographie. Okay. C'est les travaux universitaires qui peuvent enrichir la page. Vous faites modifier. Voilà.
Okay. Là, toi, tu rajoutes des livres de la bibliothèque d'ici.
Là, ouais.
Là, c'est un article.
Là, c'est un article qui est sur Internet.
Aujourd'hui, il y a en fait vraiment une réflexion sur Wikipédia sur des conventions bibliographiques concernant les personnes trans, qui ont donc eu un passé sous un nom et qui ensuite ont transitionné et ont produit autre chose. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce qu'on met le nom d'origine et ainsi de suite? Donc il y a des réflexions. Et quand il y a trop de modifications, souvent il y a des gens avec des pouvoirs, on va dire, supplémentaires sur Wikipédia parce que c'est des grandes contributeuristes qui ont finalement accédé à un statut d'administratrice. Et donc, elles ont le pouvoir, ces personnes-là, de suspendre momentanément les modifications sur une page, de verrouiller potentiellement aussi si c'est sensible et de dire là, on n'y touche pas.
Il
y a toujours une recherche de neutralité. C'est pour ça que là, je vois, moi, je suis sur le projet Transidentité, il y a beaucoup de débats, les pages qui sont les plus modifiées, donc c'est les pages relatives aux mineurs trans, Dora Mouto, Marguerite Stern. En fait, les accusations de transphobie à l'encontre de Marguerite Stern sont régulièrement combattues. Donc, régulièrement réaffirmé en fait aussi, parce que c'est le cas. Après, je t'avoue que moi, j'ai pas été sur ces pages en particulier parce que j'ai pas envie de m'infliger ça. Et donc, je me concentre plus sur des pages où, a priori, il y a moins de débats. Sur typiquement la littérature trans, ça n'intéresse personne. Il y a beaucoup moins d'enjeux politiques en fait à définir ce que c'est la littérature trans. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on cite des sources de qualité et qu'on ne déforme pas les propos qui sont dans ces sources et qu'on le rédige de façon neutre, il n'y a pas de raison en fait que la modification soit rejetée. Voilà.
J'ai fait un
nouvel article. Donc, le premier article qu'on a créé, c'était Mémoire minoritaire, parce qu'on est là. Donc, on a ajouté plus d'informations. C'est quoi Mémoire minoritaire? Donc, c'est une association LGBT d'OEI et c'est basé en France et à Vaux-en-Velin. Donc, ça, c'est notre premier article. Deuxième chose qu'on a fait, c'était on a amélioré l'article de Chaos GL, qui était une association en Turquie qui travaille sur les communautés LGBT. On avait eu deux types de références. La première référence qu'on a utilisée, c'était un bouquin qui parlait de cette association. Donc on a ajouté une référence vers ce bouquin. Et la deuxième référence qu'on a utilisée, c'était une thèse écrite par Idil Sahen. Et on a créé un nouvel article sur cette thèse. Et ensuite, on a fait le lien vers cette thèse et aussi on a fait le lien vers Chaos GL de cette thèse. Donc, les liens vers deux côtés, dans deux côtés. Donc, voilà, c'est ça, on vient de. Donc, grâce à ça, on a 6 associations qui LGBTI qui sont documentées aujourd'hui. En total, on a ajouté une.
Alors là, on est dans une salle du GZ,
Grand Zéro.
Et pour la rencontre Big Tata, il y a un grand mur qui fait au moins 10 mètres de long. En fait, c'est la queerologie. Non, là, c'est marqué.
Chronologie. Avec un Q, ouais.
Chronologie queer. Okay. Et du coup, c'était à proposition de rajouter des petites dates dans la frise. Ça va jusqu'à maintenant 2023, donc où il y a marqué première rencontre Big Tata 3 juin 23 avec un gros cœur. Et puis après, on peut se balader. Et alors, tout le monde a mis un peu des choses, ça peut être des choses personnelles comme.
Par exemple, 2015, je tombe amoureuse de ma meilleure amie et je découvre que je suis lesbienne.
Ouais, voilà, c'est super. Et puis il y a quelqu'un qui a dit moi aussi, pareil. Je tombe amoureuse de ma femme dans une asso lesbienne de Paris. J'étais mariée à un mec et j'ai tout plaqué pour elle. No regret. Et après, il y a des trucs plus comme...
2013, j'arrive d'Italie et je découvre que la Manif pour tous existe.
Ouais. Et je trouve que c'est super chouette de lier aussi les chronologies intimes à la grosse chronologie. Enfin, je sais pas. Vous, ça vous fait quoi? Ça vous donne envie de marquer quelque chose?
Ouais, grave. Non, c'est...
Alors, il y a des stylos en bas pour rajouter quelque chose.
S'exprimer.
Bon, bah là, c'est dimanche, c'est un peu la fin de la rencontre. Toi, je crois que particulièrement, tu as organisé la soirée d'hier. Du coup, tu peux raconter un petit peu comment c'était?
Moi, c'est Marguerin. Je suis bénévole à Mémoire Minoritaire. Et au Bras Zéro, la bibliothèque LGBT du Grand Zéro, on voulait faire une nuit de la poésie... queer, LGBT, féministe, et du coup on a invité quelques artistes à venir performer. Et pour l'occasion on a imaginé une petite scéno avec News qui faisait les lumières, qui était incroyable. Des podiums dans l'espace où les poésies se succédaient un peu comme ça pour créer un peu du rythme avec des jeux de lumière et tout, et ça a plutôt bien marché. Et moi j'étais trop content qu'il y ait Béatrice Brérault, qui est une poétesse lesbienne lyonnaise que j'adore. C'est un peu une ancienne et en fait elle a commencé à écrire en écriture non binaire et inclusive au début des années 2000. Et c'est quelqu'un qui est plutôt dans un réseau poésie contemporaine. C'était trop chouette de l'avoir ici parce que pour moi c'est un génie et c'était très beau sa lecture. Et, sinon il y a plein d'autres choses que j'ai adorées. Mais...
Ouais, vas-y, tu peux refaire le programme. Ouais. Je mettrai les références.
Donc on a commencé par Béatrice Brérault. Après, il y avait un concert de Limas qui fait de la chanson avec des percus corporels et de la guitare. C'était un très beau moment sous la pluie battante parce qu'on avait un déluge qui nous tombait sur la gueule et du coup, c'était un petit moment tout moite. Il y avait Emne Nasseredine qui est une poétesse franco-libanaise. C'était très, très fort aussi. Henri, Grand Garçon et Nuage Rose qui ont fait de la techno-pédée. C'était trop chouette. Sarah Mishkin, Célia Louise Château, qui sont de Paris. Gorge Bataille et Meryl Hamp, qui font de la noise queer lesbienne, crado et powerful. Et qui c'est que j'oublie? Et Colza Electric, Electric Colza avec Albelac et Monkey Monkey. Et ça, c'était un grand moment, c'était hyper chouette aussi, de la poésie mise en scène.
La chaleur doite la brise à même les rues. Des oiselles languides sifflent du Princesse Nokia sur les câbles haute tension au-dessus de la voie ferrée. La déesse lesbienne lozérienne, Lorelei Lalala, dresseuse de rats et tabagiste active, rencontre Colza, première du nom, butch gersoise de truie en noix, dans un squat transpédéguine de la capitale occitane, dans lequel elles échangèrent entre autres leur salive et un quart de MD. Ce soir-là, sur un canapé de cuir blanc, Lorelei Lalala chevaucha Colza et scella dans un baiser le début de leur union. Déposant un allume-feu dans les reins de Colza, que seule l'allumette de son regard de poivre vert peut faire virer à l'incendie. On raconte que leurs langues couplées ont l'autonomie d'un jeune faon et galopent témérairement sur la peau du monde, électrisée par la morsure des nuits, noires et acides comme les fruits du sureau. On raconte que leurs baisers visitent les songes de tous les bébés gouines en devenir, seuls dans leurs lits adolescents, déposent dans leurs reins un allume-feu, déclenchent des incendies, arrosent le fruit de la révolte. Que dès lors, ils deviennent aimants et bavardes. Qu'en fermant les yeux et en étirant ses oreilles, à chaque minuit pile, on peut entendre le vaste murmure de tous les sexes lesbiens à des kilomètres à la ronde, roulés dans l'appendice des songes, sous les toits et dans les rues, écumés dans les draps et sur les lits, sur les corps chiffons et les paupières fièvres. Que c'est le plus beau son qu'il soit donné à quiconque d'entendre. Soir d'automne, alors qu'un vent fébrile chevauchait le bitume, Lorelei Lalala et Colza descendirent dans la rue pour manifester auprès d'un millier d'autres queers, pour hurler leur « Rage against the machism ». Et la rue, elle est acquise. Ils firent corps ensemble, formant une chimère monstrueuse, rutilante de paillettes et de couleurs, tumescente et arachnomorphe, à pattes, à poils, à antennes et de dents, de glottes, de sabots et de fer, tapant sur des tambours à force bras, avec force joie, les pommes cloquées, les doigts saignés, une forêt de pancartes fleurissant au-dessus de leur tête et chanter, se regarder, se sourire, se le dire du bout des lèvres, je te crois, du bout du cœur, je te crois. On raconte que les CRS perdirent patience devant cette bête d'amour et de gouaille grossissant à vue de matraque. Ils tentèrent de la démembrer en appelant à la dispersion. C'est alors que dans la rue déserte et dans la clameur des résistantes, Lorelei Lalala et Colza s'avancèrent face au cordon armé des forces de l'ordre et, murés dans leurs désirs, s'embrassèrent. Les tirs de lacrymo fusèrent, saignant la nuit comme des filantes, des gerbes de glaïeuls, tirant sur les flaques des réverbères un rideau de fumée, des moutons de brume ricochant sur le coltard.
Et Lorelei Lalala d'embrasser Colza. Et Colza d'embrasser Lorelei Lalala. Faisant circuler entre leurs lèvres ouvertes l'air sain de leurs poumons à bloc de love, tandis que des larmes de gaz érodaient leurs joues. Pas un tir ne les toucha. Elles se tinrent invincibles et intouchables dans le feu d'artifice.
Vous venez d'écouter un reportage des Tati Geeks en immersion dans la première rencontre du réseau Big Data, réseau des bibliothèques et centres d'archives LGBTQIA+ et féministes. C'était le week-end du 3 et 4 juin 2023 à Grande Zéro, Vaux-en-Velin. Vous pouvez retrouver ce son et toutes les références sur le site radiorageuse.net. Et pour plonger dans la matrice queer, l'adresse c'est https://bigdata.org. Le son du début, c'est Nuages Roses et Henri Vanderson. Le son de la fin, c'est un extrait de Colza Electric, performance de Al Blayak et de Monkey Monkey.